Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et ben voilà un titre réjouissant qui nous dit bien que rien dans le livre qu'on va évoquer aujourd'hui et qui paraît aux éditions Les Escales, rien donc ne s'inscrit dans la norme. Ni les sentiments, ni les émotions, ni les rires, ni les larmes, encore moins l'amour qui, au fil des pages, se révèle éperdu, absolu, comme un ciment miraculeux pour colmater la réalité. Son auteur, les auditeurs d'Europe 1 le connaissent bien puisqu'il est à la fois l'avocat de référence de la station depuis plus de 20 ans et co-anime avec Bérénice Bourgueil l'émission C'est arrivé près de chez vous tous les samedis de 16 à 18h sur l'antenne. Et oui, c'est l'avocat Roland Pérez qui est également le conseil de Nikos Aliagas, de Sophie Davant, de Cyril Lignac, entre autres. Alors, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est le premier roman de Roland Pérez et c'est une révélation. Oui, oui, c'est une révélation un peu comme un conte moderne, loufoque et tendre, où l'amour réussirait des miracles. Bonjour Roland Pérez.
Bonjour, qu'est-ce que je suis impressionné Isabelle.
Je ne vais pas vous appeler maître cet après-midi.
Non, mais c'est moi qui suis très impressionné d'être à votre micro. Vous savez combien j'apprécie, et sincèrement, sans flagornerie, vos émissions. Donc je suis presque timide, moi qui ai l'habitude de faire de la radio.
Non, mais j'attends que vous soyez prolixe. Alors, Roland Pérez, dans les familles séfarades, les fils aiment leur mère d'un amour singulier, les mères aiment leurs fils d'un amour absolu. Ça donne donc le livre de ma mère d'Albert Cohen, et puis ça donne votre livre, Roland Pérez. Si différent dans la forme, mais pourtant. En fait, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, mais quelle trilogie.
Ouais, c'est pourtant bien la synthèse de ma vie d'enfant, il faut bien le dire. Ce titre ne m'est pas venu spontanément. Moi, j'avais un titre qui appartenait au dialecte marocain de ma maman, puisqu'elle m'appelait toujours Mchik Pala,
voilà.
Qui voulait dire « je te donne ma vie », je l'ai compris bien plus tard. Et quand je me suis ouvert de ce titre à Vincent Barbar, qui est le patron des escales, le patron d'Editis, il m'a dit « écoutez, non, ce titre peut-être approprié à votre histoire, mais je crois qu'il y en a un qui est beaucoup plus approprié quand vous me pitchez votre livre.
Ouais.
Et votre histoire, c'est incontestablement les trois personnes qui ont comblé votre vie d'enfant et qui vous ont fait être celui que vous êtes aujourd'hui. C'est évidemment votre mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Bon, et puis, dès la première phrase, le ton est donné. La voici, la première phrase. Ma mère était persuadée qu'avec des cigarettes au miel, on pouvait tout acheter. Alors, vous êtes née dans une famille juive séfarade, nichée dans une HLM de la Porte de Choisy. Une HLM qui, dans les années 60, était un monde en soi, avec des familles immigrées qui toutes, en fait, fantasmaient Paris, c'est ça?
Ah oui, toutes, pour ma mère, Paris. D'ailleurs, elle ne disait jamais qu'elle habitait à Porte de Choisy, qui était la dernière ligne de cette ligne. Alors, je ne sais plus si je crois que c'était 12 à l'époque. Elle disait Porte d'Italie. On lui disait, mais maman, non, on habite Porte de Choisy. Ah non, Porte d'Italie, c'est beaucoup mieux, ça fait mieux. On croit qu'on habite en banlieue autrement. Attention, la banlieue, pour ma mère, c'était inacceptable. Ma tante et mes oncles habitaient à Bobigny ou Cachan. D'ailleurs, ils avaient été rebaptisés l'oncle de Cachan, la tante de Bobigny. Et ma mère avait l'impression de nous avoir sortis de je ne sais quel trop banlieue de Dinde ou je ne sais où, parce qu'elle avait l'impression de nous avoir amenés à Paris.
Alors, avant vous, Roland Pérez, 5 enfants étaient nés. Et c'est vous, le 6e, qui, en fait, aviez permis d'obtenir ce modeste appartement dans le 13e. Sauf que vous n'étiez pas un enfant comme les autres. Les médecins étaient formels à cause d'une malformation du pied, qu'on appelle un pied beau. Les médecins disaient « cet enfant ne marchera jamais ».
Oui. Alors moi, je l'ai pas compris tout de suite, en fait. J'avais juste intégré, au moment où j'aurais dû me mettre comme mes frères et sœurs debout, j'avais juste intégré qu'il ne fallait pas que je me mette debout, puisque tout le monde me répétait « non, surtout Roland, ne te lève pas ». Et je marchais donc à quatre pattes, comme les enfants le font à un an à peu près, quand ils commencent à avoir un peu d'autonomie. Ils s'assoient d'abord et puis ensuite, ils marchent à quatre pattes. Et bien moi, j'ai continué à marcher à quatre pattes et j'ai compris, donc je vous dis assez tard, que je ne pourrais pas me mettre debout parce qu'on m'interdisait de le faire, puisqu'on avait dit, et je l'ai appris bien plus tard, on avait dit à mes parents et donc à ma maman, on lui avait dit, écoutez, là on ne peut rien faire en l'état, vous consulterez, mais surtout, il faut qu'Orlan ne se mette pas debout pour ne pas déformer encore un peu plus son corps, sa jambe, puisque je n'avais pas de talons, ni talons et le pied était totalement recroquevillé.
C'était une esquisse de pied, inerte.
Une esquisse de pied, voilà.
Sans talons.
Voilà. Et donc, j'allais complètement me tordre le corps si je me mettais debout. D'abord, je ne pouvais pas me tenir debout et il était trop tôt pour m'appareiller. Donc, en fait, il ne fallait pas que je me mette debout.
Mais alors, bon, Effectivement, à 6 mois, ça n'est pas grave. À 1 an, quand il s'agit de se redresser pour faire ses premiers pas, bah, votre maman comprend soudain vraiment que Dieu n'a pas accompli son travail jusqu'au bout, c'est ça ? Ouais.
Alors, au départ, elle pense que c'est les médecins qui n'ont pas accompli leur travail. Elle est totalement choquée parce qu'on visite, on rencontre beaucoup, beaucoup de médecins et tous sont unanimes. Ils disent que c'est trop tard. Mais ma mère dit, mais écoutez, dès la naissance, on m'a dit que c'était trop tard, je ne comprends pas. Je voulais emmener. Dès la naissance, on m'a dit qu'il fallait que je consulte. Voilà, je consulte. J'avais fait 3 opérations inutiles. Et là, on disait déjà à ma mère que c'était trop tard. Et c'est à ce moment-là, quand elle a vu que la médecine était impuissante, qu'elle s'est véritablement tournée vers la prière. Elle était petite fille de rabbin. Oui. Et elle s'est dit, il n'y a que les saints, Dieu qui va m'aider. Et elle attendait donc le miracle en le priant chaque jour, chaque moment. Elle psalmodiait dans sa bouche des prières, même quand elle me regardait. Je la
qu'elle
sentais
inventait.
Prier. Oui, qu'elle inventait. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Où tu es ? On attend. Mon fils attend.
Mais elle ne faisait pas que prier, Roland Pérez. Parce que nichée dans les bras de cette mère haut en couleur, hein, qui aurait pu servir de modèle à Marthe Villalonga, dont un éléphant s'est trompé énormément, vous avez quand même vécu un périple fou, un périple sans fin pour rencontrer aux quatre coins de la capitale les plus grands spécialistes comme les pires charlatans.
Ah oui, oui. J'ai eu une visite, alors ça je m'en suis rappelé, tous ceux qui étaient bienveillants, qui nous renvoyaient chez nous, bon, dans l'openat, ok. Mais je me suis rappelé effectivement d'une visite que je raconte, qui était effroyable, dans un hôpital où le médecin ne m'a même pas gratifié d'un regard, d'un sourire.
Mais alors là, c'était pas un charlatan, c'était carrément un ponte.
Ah oui, un ponte.
Mais inhumain au possible.
Inhumain au possible, avec un tas d'étudiants. Il montrait ma jambe avec une baguette, comme si j'étais un animal, et encore, j'espère qu'un animal, on le traite mieux. Aucun regard sur moi, vraiment aucun mot. Il montrait avec des mots très scientifiques, très techniques, je ne savais pas ce qu'il disait. Il montrait ma jambe en indiquant à la fin de cette consultation, et les personnes ne me regardaient, même les étudiants ne me regardaient pas.
C'est-à-dire que les étudiants, en fait, prenaient des notes, étaient totalement insensibles à ce petit bonhomme qui devait
J'étais
avoir
3-4
ans. Oui. Voilà, et qui était... dans cette salle d'études, comme un petit animal apeuré, épouvanté, qu'on va bientôt disséquer, c'est ça ?
Exactement, et c'est exactement l'impression que j'ai eue, et c'est comme ça qu'il a été décidé d'une nouvelle opération que ma mère, plus tard, refusera en fait.
Bon, Roland Pérez, ou Pschick Para. J'hésite entre
vous le dites bien.
Maître ou Pschick Para. Ouais. Oui, je me suis entraîné avant l'émission, c'est pas évident. Quand on a 4 ans, 5 ans, et qu'au lieu de marcher, on découvre le monde à hauteur du sol, en fait, en rampant sur le lino. J'imagine que tout prend une autre signification. Vous dites, le salon qui ressemblait à Casablanca, dans 14 mètres carrés, devenait un fabuleux terrain d'exploration. En fait, vous étiez comme un lilliputien dans le monde de Gulliver, c'est ça ?
Oui, c'est quasiment ça aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison, vous avez bien visualiser la situation dans laquelle j'étais. Oui, je regardais de haut, en fait, enfin d'en bas plutôt, mes parents. Je regardais surtout mes frères et sœurs, qui étaient pour moi déjà un monde à eux tout seuls. J'avais la chance d'avoir 5 frères et sœurs, vous imaginez. Donc, puis je regardais la télévision également d'en bas. Je regardais les voisines de l'immeuble qui venaient avec lesquelles ma mère était très liée.
Parce que vous ne pouviez même pas vous hisser à la hauteur des fenêtres.
Non, alors j'essayais de le faire avec une jambe en l'air quand ma mère partait, quand ma mère accompagnait mes frères et sœurs à l'école. Comme je savais que c'était un interdit et que les enfants adorent les interdits et que c'était le seul interdit que je devais transgresser, j'attendais que ma mère parte et là je me hissais sur les chambranles du couloir qui était venu pour moi le sentier de la gloire. Je m'appuyais comme ça sur ces chambranles et j'avançais avec une jambe et là j'avais l'impression d'être comme tout le monde.
Vous n'étiez donc pas scolarisé, c'est-à-dire que vous ignoriez tout, par exemple des jeux d'une cour d'école?
Absolument.
Ça a été une enfance hallucinante de solitude.
Non, alors pas si seul que ça, parce que d'abord, j'avais ma maman qui était là constamment avec moi. Donc c'est quand même, pour un enfant, c'est un bonheur d'avoir sa maman. D'habitude, les mamans travaillent ou la maman accompagne ses enfants à l'école et ne les retrouve qu'à certaines heures de la journée. Moi, je l'avais que pour moi toute la journée, donc c'était déjà formidable. J'avais mes frères et sœurs qui rentraient, comme j'avais eu à peu près 12 ans de différence avec les aînés, ils rentraient à des heures différentes, donc je les voyais, ils passaient toujours du temps avec moi.
Et eux me racontaient le monde.
J'avais la télévision quand elle marchait, en tout cas à partir de l'après-midi, parce que le matin, il y avait plutôt la mienne, il n'y avait pas grand-chose, pas comme aujourd'hui. Et puis j'avais aussi les voisines de cet immeuble. avec laquelle ma mère, encore une fois, avait une relation très forte, puisqu'elle s'était partagée un peu les activités de la famille. Ma mère cuisinait pour tout le monde, une faisait les la couture, l'autre passait, et en fait, toutes ces femmes qui venaient, qui étaient d'origine différente, qui venaient passer 2 heures et 3 heures, je me délectais de leur conversation.
Mais vous étiez dans un gynécée, en fait.
Oui, exactement. Je me délectais de leur conversation, je me délectais des remarques des unes, des autres, de leur regard bienveillant. Ils avaient tous un regard appuyé, et puis ça commençait toujours par « Alors Roland, des nouvelles ?» puisque ma mère leur donnait chaque jour, avec l'espoir de ce miracle, leur donnait chaque jour des nouvelles.
Alors Roland Pérez, vous nous avez dit effectivement 5 frères et sœurs, c'est-à-dire vous aviez 3 frères avec lesquels vous étiez donc entassés, donc finalement à 4 dans une même chambre, mais c'est la chambre des filles, donc vos 2 sœurs qui étaient votre caverne d'Ali Baba. C'était l'époque bien sûr de Salut les copains, Mademoiselle H. Tendre, et puis la blonde la plus ravissante qui posait dans ses magazines, c'était Sylvie Vartan. Sylvie Vartan dont votre sœur, au petit conservatoire de Mireille, travaillait les chansons. Donc dans la chambre des filles, quand vous entendiez sur un petit épaz « Si je chante, c'est pour toi », bah, pas de doute, Sylvie chantait pour vous l'enfant qui ne marchait pas. Rien que pour vous.
Que pour moi. Elle est revenue avec ce disque, ce premier disque. Elle chantait donc dans la tessiture. On disait qu'elle avait les tessitures de voix de Sylvie Vartan. Je ne sais pas si c'était le cas. En tout cas,
vous parlez de votre sœur.
De ma sœur, Jessica. Et puis donc, elle chantait. Et moi, du coup, ce disque, je me le suis approprié. Et quand les paroles résonnaient comme ça dans la chambre, « Si je chante, c'est pour toi, il faut sécher tes larmes et chanter avec moi », je dis « C'est pour moi ». Elle chante pour moi. Et elle était tellement belle. Elle était ravissante. Et du coup, sa pochette, j'avais que cette pochette et je regardais tout. Ses cheveux, ses dents, ses yeux. Il y avait 4 titres à l'époque. On n'avait pas que 2 titres. Donc, il y avait 4 titres dans ce disque. Donc, j'écoutais comme ça ces 4 titres. Dès que ma sœur partait, je remettais moi-même ce disque. Et donc, j'ai commencé à m'attacher à elle plus qu'à d'autres.
Parce qu'elle vous connectait au monde. Oui, vous l'aviez choisi.
Oui, et puis ses paroles me parlaient, sa voix me parlait. Il y avait quelque chose, j'aimais son visage et en plus je la retrouvais dans les magazines que mes sœurs achetaient, Mademoiselle H. Tendre, Salut les copains. Je feuilletais les magazines parce que j'avais pas grand chose, pour moi c'était des livres d'images, je ne savais pas lire ni écrire et je regardais et du coup je guettais, c'était un grand jeu pour moi, retrouver Sylvie Vartan dans ces magazines que j'écoutais par ailleurs dès que je le pouvais.
Il s'agit vraiment au travers de cette autobiographie d'une fable, d'un conte moderne, infusé par à la fois l'amour et puis l'espoir. Oui, tout peut finir très très bien parce que, juste avant de faire une pause, vous mesurez combien aujourd'hui, Maître
Pérez ? Je mesure 1m87.
1m87 ! Donc vous voyez que les miracles sont bien arrivés. Allez, on fait une pause très courte, on se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Voilà un livre qui a le pouvoir de rendre heureux. Il a pour titre « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Et il paraît aux éditions Les Escales. Alors Roland Pérez, jusqu'à quel âge avez-vous marché dans votre tête en explorant un monde imaginaire, vous, l'enfant reclus ?
Jusqu'à 7 ans. Ça peut paraître incroyable, mais jusqu'à 7 ans. Je marchais à 4 pattes et je n'en étais pas malheureux, en fait. Je n'en étais pas malheureux, même si je rêvais effectivement de marcher, mais... J'avais dans le regard de ma mère, dans les mots de ma mère, j'avais la certitude que je marcherais. Pas une seule fois, elle a douté. Ouais. Pas une seule fois, elle a failli. Et ce regard plongé dans le mien, elle m'affirmait haut et fort que je marcherais, alors que tout semblait indiquer que je n'allais pas marcher. L'assistante sociale qui venait nous voir était d'une réprobation totale. C'est-à-dire qu'elle...
Elle voyais vous interdisait bien... d'espérer.
Ah oui, bah je voyais bien dans son regard, dans les questions qu'elle posait, même si ma mère la madouait avec du thé à la menthe et des cigares pour gagner un peu de temps, même si elle la madouait avec ses mensonges multiples en disant qu'elle avait des rendez-vous avec des médecins qu'elle n'avait plus, puisqu'à un moment donné, on avait fait le tour de Paris.
Ouais.
Et parce qu'elle attendait ce miracle et qu'elle en était convaincue, elle pouvait continuer à lui faire croire qu'on allait sauver son fils. Et elle empêchait ainsi les services sociaux de s'intéresser à ma situation. Je n'allais pas à l'école, je ne savais toujours
mais
pas
c'est
lire
ça.
Ni écrire.
Et puis un enfant de 5-6 ans qui sort dans la rue toujours porté par sa mère, sans jamais toucher le sol du bout de ses chaussures, forcément ça intrigue. Donc pour le quartier, vous étiez vraiment un objet de curiosité.
Ah oui, pour le quartier.
Mais vous ne vous sentiez pas différent.
Non, mais je sentais bien dans le regard qu'il y avait à la fois de la compassion, un peu de pitié, et parfois de la réprobation. Parce qu'on se disait mais pourquoi cette femme, cette mère, n'appareille pas son enfant ? Pourquoi elle ne le met pas sur une chaise, au moins, pour une chaise qui a un fauteuil roulant ? Pourquoi elle ne fait pas ça ? Mais ma mère ne voulait surtout pas succomber à cette, ce qu'elle appelait une facilité, certainement. Elle savait que je marcherais et il ne fallait pas que je passe par une quelconque transition. C'était pour elle la condition sine qua non. Il ne fallait pas du tout qu'on puisse s'habituer de près ou de loin au fait que je ne marcherais pas. Et donc, ce combat, elle le menait contre tout le monde, même les voisins, parfois même les commerçants qui la regardaient un peu étrangement, parfois, même s'il y avait de l'admiration quand même.
Et puis, elle avait, votre mère, des accointances avec les saints. Esther, qui avait dressé son hôtel sur le radiateur du salon, un hôtel où trônaient des portraits de faiseurs de miracles qui devaient intercéder auprès du maître suprême, Hachem. Et puis il y avait, donc vous nous l'avez dit, la photo de votre grand-père, Isaac, le rabbin, mort pour être allé trop loin, selon elle, dans l'étude de la Kabbale. Et puis il y avait plein de bougies. Donc, en fait, cet hôtel, il était éclairé en permanence toute la journée.
Il était éclairé en permanence et la nuit. Mon père se levait plusieurs fois dans la nuit parce qu'il craignait vraiment
que
ma mère
foute le feu. Oui, pour vérifier que ça ne prenne pas feu.
Mais ma mère dit, mais non, je le fais pour la bonne cause, ça ne peut pas prendre feu. Et elle priait, elle venait tous les jours, elle se mettait autour de ses bougies, elle priait en dialecte marocain, elle priait en français, elle priait avec les yeux, avec ses attitudes, avec elle se courbait parfois, mais avec une conviction, et je voyais ça. Pour moi, c'était une attraction parce que c'était une nouvelle attraction dans cette maison et elle avait l'air de montrer que vraiment le miracle allait arriver. Donc je l'attendais, j'étais comme elle, j'attendais le miracle.
On l'attend tous. Il est temps de nous raconter, Roland Pérez, comment justement le miracle, c'est-à-dire Madame Vergepoche, est entrée dans votre vie. Alors tout démarre avec une carte postale envoyée de Casablanca à votre maman, donc une carte postale qui représente un chameau conduit par un jeune berbère, mais en réalité, cette carte postale, c'est un sésame qui donne l'adresse à Paris, donc d'un médecin, paraît-il prodigieux. Alors, le dernier que votre mère n'a pas vu.
Le dernier qu'elle n'a pas vu, qu'elle ne connaissait pas, et dont l'adresse qui nous est donnée quand même de façon la plus improbable possible, du Maroc. Alors que ma mère vivait à Paris, et que rien ne laissait penser qu'elle recevrait une carte de Casablanca, mais elle avait encore ses frères et sœurs qui vivaient à Casablanca, et notamment son frère Sam. Et c'est son frère Sam qui, par le plus grand des hasards, et on a raison de croire au miracle, Isabelle, parce que par le plus grand des hasards, il s'avère qu'une petite fille habitait dans la rue de mon oncle et avait eu le même problème que moi à la naissance. Et cette petite fille est venue du Maroc pour se faire soigner à Paris. Et elle a été donc chez ce fameux, qu'on croyait être au départ, le docteur Vergepoche.
Voilà, alors vous dites Vergepoche, je vais donc bien prononcer son nom. Votre maman décide donc de se rendre à cette adresse et votre mère manque de s'évanouir quand de l'autre côté de la porte, alors qu'elle a sonné, on lui répond « Mais enfin madame, il est mort, monsieur Vergepoche ». En fait, c'est la première fois de votre vie que soudain vous voyez votre mère pleurer.
Ouais. C'est la première fois, oui. C'est la première fois que je la vois, baisser la garde, parce qu'elle me porte. On a traversé Paris, on a pris le métro, elle me porte dans ses bras, et puis on arrive chez ce docteur Vergepoche. On monte 4 étages à pied. Je m'en rappelle bien. J'avais 5 ans.
Vous dans ses bras.
Je suis dans ses bras, je suis lourd déjà. Vous avez dit 1m85, je suis lourd, je suis bon. Et elle me porte, on arrive, et là, elle sonne, et là, il y a une dame très austère, des lunettes, un chignon tout en noir, qui nous ouvre la porte et qui regarde ma mère un peu comme on regarde parfois, et c'est pas bien, une bohémienne, vous voyez, quelqu'un qui est là avec ses colifichets, son fils, et elle dit « Que voulez-vous, madame ?» Elle croit que ma mère est une mendiante.
Oui.
Et ma mère dit « Bonjour, madame, je viens voir le docteur Vergepoche. » Et là, on lui dit « Le docteur ? Il n'y a pas de docteur, madame, ici. » Et ma mère, qui ne se départit pas de son énergie, voit sur les tapis, vous savez, il y avait des initiales avant,
oui.
Et il y avait MV.
Oui.
Et elle dit, et V, qu'est-ce que c'est alors? Elle lui dit, c'est Monsieur Vergepoche. Elle lui dit, Monsieur Vergepoche. Et là, on lui dit, Monsieur Vergepoche est mort il y a 6 mois, madame. Et là, effectivement, ma mère me pose et elle pleure. Elle pleure et pour la première fois, je vais pleurer moi aussi. C'est la première fois, vraiment, de souvenir que j'ai. C'est la première fois que je vais pleurer en la voyant pleurer. Et là, probablement que ça va m'adouer, Madame Vergepoche, qui a décidé de nous faire entrer dans son appartement, en fait.
Voilà. Alors, cette femme, cette veuve qui pouvait sembler acariâtre et glacée, va faire une proposition à votre maman. Une proposition, parce qu'elle n'est pas médecin, mais elle a vu comment son mari procédait pour guérir En fait, les problèmes que vous aviez, pendant 30 ans, elle l'a assisté. Donc, elle dit à votre mère, bon, écoutez, on va peut-être pas y arriver, mais je vais tenter quelque chose.
Ah oui. Elle va nous dire d'abord que son mari n'était pas médecin, il était rebouteux. Pour ma mère, ça signifie rien. Pour ma mère, ça signifie juste que le miracle est en route. Donc, elle veut s'accrocher à cela. Et elle lui dit, elle poursuit en lui disant, j'ai assisté mon mari pendant 30 ans. Elle regarde mes grands yeux noirs, les larmes qui continuent un peu à couler. Ma mère qui est là, totalement pour la première fois apeurée, découragée. Et elle la regarde, elle lui dit, madame, je vais tenter ce que je n'ai jamais fait. Je vais tenter de refaire ce que mon mari a fait pendant plus de 30 ans. Je ne sais pas si je vais réussir. Mais non. Il va falloir que vous m'aidiez, vous aussi.
Voilà. Alors, le pari était fou. Mais bon, c'est bien que c'est en croyant follement qu'on réussit, parfois. Cette femme annonce donc à votre maman qu'elle va fabriquer plusieurs corsets, qu'elle va fabriquer des attelles, que ça va être très contraignant pour vous, très douloureux, car vous devrez vivre en permanence allongée. Pendant combien de temps, on ne sait pas encore, mais ça va durer très 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 longtemps. Et pour supporter tout ça, elle dit à votre mère qu'il faudra mettre votre lit au milieu du salon, devant la télé. Et c'est ainsi que Sylvie Vartan, qui était vraiment à l'époque de toutes les émissions de variété, va entrer dans votre vie, Roland Pérez, en jouant sans le savoir, en fait, le rôle de garde malade, quoi. Soudain, vous choisissez une espèce de fée protectrice qui va être nounou, confidente, amoureuse et garde malade.
Ouais. En fait, elle va lui dire, compte tenu du traitement qui est très lourd, très cher d'ailleurs, mon père va devoir même travailler la nuit pour payer ce traitement, elle va lui dire, dans le traitement, il va falloir qu'il y ait un dérivatif. Et donc, elle va demander à quoi s'intéresse le petit Roland. Et là, ma mère, très naïvement, va lui dire, écoutez, vous savez, il ne bouge pas de la maison, il s'intéresse à ce que s'intéressent ses frères et sœurs. Et là, ma fille chante des chansons avec un disque d'une jeune chanteuse qui vient d'arriver, qui s'appelle Sylvie Vartan. Et là, je revois Madame Bergepoche qui se raidit un peu, qui regarde ma mère, qui plante ses yeux dans les yeux de ma mère et qui lui dit, bon, ce n'est pas Mozart, mais ce n'est pas grave, madame. Sylvie Vartan va devenir sa meilleure amie. Ma mère lui dit comment ? Comment ça, comment ? Elle fait partie du traitement, madame.
Voilà, c'est carrément sur ordonnance.
Va être le rocher auquel va s'accrocher le petit Roland. Il va falloir que vous lui rapportiez toute l'iconographie de Sylvie Vartan à l'époque. Elle était quand même bien, bien pauvre parce qu'elle venait de commencer.
Oui.
Mais il va falloir que tous ces disques, ces spectacles, que la télévision, ces émissions, il va falloir que Roland puisse se concentrer parce que 18 mois sans bouger dans un lit, c'est long.
C'est long. Donc, sans le savoir, eh ben Sylvie Vartan va devenir le 9e membre de la famille Pérez. Voilà. Alors, on n'a jamais vu un antidépresseur aussi glamour, hein, bien sûr. Mais surtout, le miracle attendu, il va se produire. Alors, est-ce grâce à Madame Vergepoche ou à Sylvie Vartan ? Et ben voilà, on retrouve tout de suite Roland Pérez dans le premier roman, en réalité une biographie, paraît aux éditions Les Escales avec ce titre savoureux, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Mais avant, on s'offre un tout petit peu de musique avec deux talents vraiment singuliers, deux tempéraments forts, Julien Doré et Eddie De Pretto, L'arme fatale.
Sur ma bouche les arguments et les baisers. Je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité.
Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai la larme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle la vie. Oh, elle est pas belle la vie. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées.
La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait.
Oh, elle est pas belle la vie. Pas belle la vie, elle est pas belle la vie.
pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer.
On éteint la flamme avec de l'eau salée.
La nuit je suis grand et le jour je suis laid.
Partons bien avant que le soleil soit tombé.
Oh, elle est pas belle la vie.
Par Julien Doré et Eddy de Préto. Et dans quelques instants, on se retrouve en compagnie de mon invité Roland Perret.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Voilà un livre qui a tout pour devenir un film irrésistible. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est le roman le plus chaleureux de la rentrée sur la famille et surtout, surtout sur la différence. Je reçois son auteur, figure bien connue à la télé comme en radio, l'avocat Roland Perret, qui chaque samedi sur Europe 1, de 16 à 18 heures, rejoint la joyeuse bande de Bérénice Bourgueil pour C'est arrivé près de chez vous. Roland Perret, pour un premier roman, être coup de cœur des libraires, coup de cœur de la FNAC et dans les meilleures ventes, quand même, vous avez fait très très fort.
Non, j'ai du mal à, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à réaliser. Je suis tous les jours surpris. Jusque venant dans votre studio aujourd'hui, quelqu'un m'a arrêté. C'est, alors que je fais de la télévision, comme vous l'avez dit, je fais de la radio depuis longtemps. Quelqu'un m'a arrêté en me disant merci. Et sur le coup, je pensais que c'était une erreur. Je l'ai regardé et il m'a dit merci. Merci pour votre roman. Je l'ai offert à ma maman, je l'ai lu aussi, ça m'a fait un bien fou. Votre histoire est incroyable, vous donnez la pêche, vous donnez l'espoir. Et je me dis, c'est marrant, l'image, je pensais que l'image était plus parlante que l'écriture, le
stylo.
Pour la première fois, je le constate. Ouais.
Alors, vous faites de la télé sur C8 avec William Lémergy. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, l'avocat de référence d'Europe 1 depuis plus de 20 ans, mais vous dirigez aussi un cabinet d'avocats et vous êtes le conseil, entre autres, de Nico Saliagas, de Sophie Davant, de Cyril Lignac. Vous avez d'ailleurs défendu le fils de Sylvie, David, dans la succession de Johnny. Aucun de vos amis ne savait que vous vous étiez lancé dans une espèce de double vie, cette vie de romancier.
Ah oui,
ils ignoraient tout de ce qui se passait quand vous enfermiez dans votre bureau, en fait, pour écrire ce livre.
Oui, oui. Je m'enfermais plusieurs heures par jour pour pouvoir écrire. En fait, c'est devenu une urgence, cette écriture, quand ma mère est partie. Parce que je ne lui avais pas dit merci, en fait. Je ne sais pas, on ne dit pas merci forcément à ses parents, parce que ça paraît naturel. Vous êtes maman, Isabelle.
On oublie souvent de leur dire merci.
On ne dit pas, on dit pas merci parce qu'on trouve normal de que nos mamans nous aiment et nous le montrent. Et bien, finalement, non, ce n'est pas si normal que ça. Ce qui m'est arrivé n'est vraiment pas si normal que ça. Et comme j'avais l'impression de ne pas lui avoir dit merci formellement, je me devais d'écrire quand même ce livre.
Alors, il faut reprendre le fil de cette folle histoire qui est la vôtre, Roland Perret. On vient de vous quitter donc sur votre lit de douleur, allongé pendant 18 mois avec un corset, des attelles, connecté au monde juste par un écran de télé et hypnotisé chaque fois que Sylvie Vartan apparaît chez les Carpentiers. Vous avez d'ailleurs appris à lire avec les textes de ses chansons, puisque vous n'étiez pas scolarisé, voilà. Et le miracle tant attendu par votre maman, enfin se produit. Mais pour savoir comment, il faut plonger dans le livre. Et à l'âge donc de 7 ans et demi, pour la première fois de votre vie, avec des jambes fragiles comme du cristal, eh bien vous allez pouvoir faire vos premiers pas et découvrir le monde sous une autre perspective. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous avez ouvert la porte de l'appartement à vos frères et sœurs qui rentraient en courant de l'école et qui ne vous avaient jamais vu debout?
Ah oui. Oui, parce qu'en fait, quand on a été chez Madame Vergepoche le dernier jour où on devait précisément m'enlever ses attelles, ce corset, et ma mère avait donc acheté, fait faire sur mesure les fameuses chaussures indifférenciées, qui étaient comme des bottines, qui étaient un peu, vous savez, les bottines qu'on voit parfois pour des gens qui ont des pieds beaux et qui sont paralysés. Et ces chaussures-là, ma mère les avait emmenées pour que je puisse les mettre, mais on n'avait dit à personne, puisqu'on ne savait pas si le miracle se produirait. Et puis quand je me suis mis sur pied, sur jambes, quand elle m'a fait faire quelques pas dans son cabinet,
quand on se redresse enfin,
sans appui, j'avais du mal à marcher quand même. On me tenait un peu les mains parce que j'avais du mal, j'avais jamais marché, oui. Donc j'étais très
pas
incertain.
Muscle.
Oui, j'avais aucun muscle. J'étais et là, je me suis accroché une fois de plus au regard de ma mère que j'ai vue évidemment, oui, avec une larme de bonheur cette fois. Et elle avait qu'une idée, c'était vite rentrer et surtout me faire marcher et plus me porter en sortant du métro de cette avenue de la Porte de Choisy où il y avait tous ces commerçants. Et elle voulait tout d'un coup briller. On avait l'impression que la reine d'Angleterre...
Tout le monde vous voit debout.
Ah oui, qu'on me voit debout et qu'on voit que cette réprobation générale qu'elle avait subie n'était pas fondée et qu'elle avait eu raison de se battre.
Parce que debout, c'est un mot magnifique. Debout, c'est un mot fort au propre comme au figuré. Ça signifie responsable, libre, prêt à affronter le monde debout. Mais pour votre maman, c'était à la fois une victoire et en même temps, c'était la disparition de l'enfant greffé dans ses bras.
Oui, je pense. Je ne sais pas si elle l'a vu comme ça, puisqu'elle a quand même tout fait, malgré le fait que je puisse marcher. Elle a tout fait pour me garder encore un peu avec elle. Mmh. Elle a imaginé alors m'inscrire à l'école des enfants du spectacle, qui est une école où on n'inscrit pas qui veut. On n'inscrit pas qui veut, comme ça.
Alors effectivement, Roland Pérez, votre maman vous inscrit donc dans cette école des enfants du spectacle, mais une école, elle a forcément une cour de récréation. Et une cour de récréation, avec les enfants de son âge, ça peut être pire qu'un parcours de Koh-Lanta. Surtout que vous aviez des chaussures orthopédiques improbables, assez de rouges et montantes, un petit peu comme celles que portait Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, c'est
exactement.
Ça Vous étiez déjà dans la comédie musicale.
J'étais déjà dans cette farce, on va dire. Oui, parce qu'en fait, déjà, rouge, on avait choisi rouge parce que les noirs et les marrons étaient trop symptomatiques d'une infirmité. Donc j'avais dit à ma mère, non mais je veux pas cette couleur. Donc on avait dû racheter des chaussures et on pensait que rouge, c'était un peu comme les enfants, les chaussures des autres enfants. Mais effectivement, je pouvais pas courir et que tout le monde, et je marchais donc toujours un peu difficilement. Les enfants ne comprenaient pas très bien pourquoi j'avais ce type de chaussures et ils me traitaient, il n'y a pas d'autre mot, oui, ils m'affublaient de noms de paralysés. Ils me disaient, ah regarde, il est paralysé, il est handicapé. J'avais jamais entendu ce mot, moi, handicapé. On n'avait jamais prononcé devant moi ce mot handicapé, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais visiblement c'était une sorte d'insulte, puisqu'il le disait vraiment en se moquant ouvertement. Et je rentrais le soir, je disais que je ne voulais plus porter ces chaussures, que ces chaussures, je ne sais pas, étaient pour moi attiraient comme ça ces insultes, ces injures, je ne voulais plus les porter.
Mais pourquoi l'école des enfants du spectacle c'était pour vous proposer du rêve, ne pas aller dans une école traditionnelle, une école classique, vous qui aviez passé tout ce temps allongé devant une télévision connectée au monde juste par les shows, les émissions de divertissement, vous aviez le droit d'entrer dans le poste, c'est ça, pour votre maman ?
Oui, je crois surtout que c'est parce qu'au départ, elle l'a choisi, cette école, parce qu'il n'y avait cours que l'après-midi. On n'avait cours que de 13h à 17h. Et ma mère pensait qu'avec mon pied malade, comme elle l'a désigné jusqu'à la fin de sa vie, elle appelait mon pied malade, alors qu'il ne l'était plus, mais elle l'appelait comme ça. Elle pensait que je ne pouvais pas suivre un enseignement qui m'aurait amené à être à 8h30 le matin à l'école. Et donc, je pouvais y aller qu'à 13h. Seulement, il fallait justifier de cet horaire aménagé. Il fallait justifier auprès de la directrice mon inscription. Mais ma mère n'était plus un mensonge près, après avoir manigancé et trimballé Madame Fleury, l'assistante sociale, elle pouvait également se payer un peu de la tête de la directrice. Et donc, elle a fait croire à cette directrice, parce que j'avais appris à lire et à écrire.
Oui.
On n'allait pas lui dire que c'était par les méthodes Vartan que j'avais appris à lire et à écrire. Donc, elle lui a annoncé qu'en fait, j'étais au Maroc et que j'avais fait un grand film au Maroc et que c'est la raison pour laquelle, pendant un an, je n'avais pas été scolarisé.
Mais quelle attachée de presse, votre maman, Roland Pérez.
Et que j'avais appris à lire et à écrire là-bas, au Maroc, avec un professeur professeur particulier, mais que maintenant j'avais une grande carrière qui m'attendait, que j'étais doué pour la comédie, la danse et la chanson.
Oui, mais alors on a bien entendu la danse, ouais. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, dans cette école des enfants du spectacle, au premier cours de danse classique, alors que vous êtes chaussé donc de chaussons demi-pointe, qu'arrive-t-il ? Une catastrophe.
Ah oui, l'humiliation. L'humiliation la plus totale. Les deux premiers jours, j'arrive à me dissimuler derrière un peu tout le monde. J'essaye de faire un peu 1, 2, 1, 2, 3 avec les différentes postures des pieds. Et puis, à un moment donné, il faut faire le saut de chat. Et là, elle nous montre comment faire, le professeur, le saut de chat. Et je vois à côté de moi que tout le monde, avec beaucoup de grâce à faire, arrive avec ce saut de chat. Mais moi, j'arrive déjà du mal à tenir
et
sur mes jambes.
Et les professeurs ignoraient complètement le handicap
tout.
Qui avait
oui.
été le vôtre.
Oui, parce que là, on me voit en collant répéto et en petit
tout
chausson.
Voilà.
Donc là, la jambe, on la voit beaucoup plus mince.
Oui.
On voit qu'il y a un mollet totalement atrophié. Un pied plus petit que l'autre dans un chausson qui sort. Parce qu'à chaque fois, le pied sort parce qu'il est, il est déjà un peu recroquevillé. Il sort du... Et là, il faut faire le saut de chat. Et là, évidemment, je me casse la figure quand je fais le saut de chat, tout le monde rigole et c'est l'humiliation la plus totale parce que, évidemment, la prof vient, regarde ma jambe et me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ?
Mais c'est une monstresse.
Oui, je ne sais pas, elle sait et ma mère qui avait un peu prévu tout ça, m'avait dit, si on te demande, alors elle ne savait pas que c'est le professeur de danse, mais si on te demande, tu diras que tu as eu un accident de voiture au Maroc. Tout se passait au Maroc. Et donc j'ai dit, non, on a eu un accident de voiture avec mon oncle au Maroc. Et là on m'a dit, mais enfin ce petit ne peut pas faire de la danse du tout.
Alors finalement, l'école va vous aiguiller vers le chant et la comédie. Et vous allez souvent être casté pour des pubs et sur les shows des Carpentiers, dès qu'ils avaient besoin d'un enfant, parce que vous aviez vraiment un minois de poupons, d'angelots ravissants avec de grands yeux de braise et de longs cils. Et c'est là pour la première fois que vous allez rencontrer en chair et en os la fée protectrice de votre histoire.
Ah oui, j'étais totalement... J'étais en arrêt sur image quand je l'ai rencontrée, quand je l'ai vue. Elle était sur un plateau dans une grande baignoire avec Jean-Claude Brialy. Elle chantait une chanson qui reprenait à plusieurs reprises. Et là, on devait aller sur un autre plateau, nous, pour faire une chanson avec elle. D'ailleurs, Jean-Jacques Debout. Mais on nous avait parqué un peu là. Et là, je la vois, effectivement... Je me dis, c'est pas vrai, c'est elle. Pour moi, elle était presque irréelle, comme toutes les fées. Mais là, je la voyais en chair et en os. Et je n'ai pas voulu du tout m'approcher. Je n'ai pas du tout voulu frayer avec elle.
Vous ne lui avez pas adressé la parole.
Pas un mot. Je ne voulais surtout pas. Je voulais qu'elle reste dans mon imaginaire, comme cette fée inaccessible.
Ne pas briser le rêve.
Non, ne pas briser le rêve. Surtout pas. Et d'ailleurs, quand je suis rentré chez moi, je ne l'ai même pas dit à ma maman. Je ne l'ai raconté à personne parce que je ne voulais pas la rendre réelle. Je voulais qu'elle continue à habiter mes rêves.
Bon, alors je laisse aux auditeurs le soin de poursuivre la lecture de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Voilà, parce que vraiment de chapitre en chapitre, c'est tellement infusé à la fois par l'émotion et par le rire, et si riche de rebondissements, je ne veux pas trop déflorer, mais on l'a compris, vous étiez un enfant de la balle et voilà que vous devenez avocat. En fait, vous n'avez pas voulu devenir acteur alors que adolescent, on vous réclamait dans énormément de castings. Vous avez travaillé sur la scène de la Comédie Française, vous êtes retrouvé sur des plateaux de cinéma, vous avez fait énormément de pubs, on vous a vu souvent à la télé, mais vous devenez avocat. Pourquoi ?
En fait, avec mes yeux d'enfant, je m'étais très vite aperçu que, en tant qu'enfant, on était très vite choisi. Il y avait peu d'enfants à l'époque, donc c'est vrai qu'on était choisi pour des publicités. J'ai fait des pièces de théâtre, j'ai joué à la Comédie Française, vous l'avez rappelé. J'ai joué avec Richard Boringer au cinéma. Enfin, vraiment, j'étais un enfant un peu roi. Surtout l'enfant caché que j'avais été, confiné que j'avais été, tout d'un coup qui est dans la lumière.
Le spectre est hallucinant.
Vous imaginez
l'enfant prisonnier, l'enfant qui rampe sur le sol parce qu'il a un pied anormalement constitué et qui est déconnecté du monde, qui n'est pas scolarisé et qui finalement va entrer dans la lumière ensuite en devenant une petite star des plateaux de télévision et au cinéma. Mais quelle histoire !
Ah oui, c'est improbable. Et en fait, les voisines, les commerçants disaient, mais c'est pas le petit Roland que vous portiez, Madame Pérez ? Et puis disaient, mais oui, c'est lui maintenant que vous voyez à la télé. Donc ma mère, c'était son heure de gloire à chaque fois que je passais à la télévision. Et puis un jour, je me suis aperçu que l'enfant pouvait être choisi, mais que les adultes, la concurrence était extrêmement rude. Et je ne voulais pas me confronter encore à des difficultés. Donc je me suis dit, non, je deviendrai avocat, mais je m'occuperai d'artiste.
Alors justement, Juste avant de faire une pause, en quelques mots si c'est possible, cher Roland Pérez, effectivement vous êtes occupé d'artiste, vous avez gardé des accointances très fortes avec le show business, vous êtes le conseil de Nikos Aliagas et bien sûr celui de Sylvie Vartan qui apprendra sur le tard et par Sophie Davant le rôle inimaginable qu'elle a joué dans votre enfance. Juste, j'aimerais savoir, pour la succession de Johnny Hallyday, sans plaider, vous avez défendu David, le fils de Johnny et Sylvie, face à Laetitia. Est-ce que, à présent, on peut dire que les choses sont apaisées ? Est-ce que chacun, aujourd'hui, a reçu de manière légitime ce qu'il devait recevoir ?
Alors, en fait, je me suis occupé surtout de Sylvie, pour David, effectivement, pour de Sylvie, parce qu'il avait été affirmé que la maison de Sylvie appartenait en moitié à David et que c'était son père qui le lui avait donné. Donc, je me suis invité, effectivement, dans ce procès assez lourd pour démontrer qu'en fait, non, c'est bien Sylvie qui avait donné la moitié de sa maison à David et non Johnny Hallyday, ce qui a changé évidemment la configuration des choses sur le fait que David n'avait pas été gratifié, tout comme ne l'avait jamais été non plus Laura, dans le cadre de cette succession et qui légitimait d'ailleurs le fait qu'il puisse l'être dans cette nouvelle configuration, puisque aujourd'hui la succession est bientôt est franco-française, c'est-à-dire qu'elle échappe au droit américain. Alors vous me demandez si elle est apaisée. Oui, elle est apaisée, puisque David a renoncé à tout, finalement.
Ce qui est très rare dans une succession, n'est-ce pas ?
Il voulait que la succession soit française. À partir de là, il a renoncé à tout, c'était son choix. Laura est parvenue à un accord aussi, mais elle n'est plus successible, elle n'est plus héritière également. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de relation du tout. Peut-être qu'à l'avenir, j'imagine que David et peut-être sa sœur auront des relations avec les deux petites de Johnny, les dernières. Mais en tout cas, les deux enfants n'ont pas de relation du tout avec Laetitia.
Allez, on s'offre un peu de l'énergie et du groove de Gregory Porter, Dry Bones.
I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move fill my body awake. There's a sound, you and me are one, and the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand?
C'était Dry Bones par Gregory Porter. On retrouve tout de suite mon invité, Roland Pérez.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Roland Pérez est avocat au barreau de Paris depuis 1985 et depuis plus de 20 ans, il est une des voix d'Europe 1. Il publie aux éditions Les Escales son premier roman autobiographique, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Je ne me lasse pas de dire ce titre. Bon, Roland Pérez, Esther, qui est en tête de cette trilogie, a fermé les yeux pour toujours il y a 4 ans en murmurant à votre oreille « Mshikpara, je te donne la vie donc ». Et vous regrettez de ne jamais avoir songé à lui dire merci, mais comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, ce roman le fait pour vous. Moi, j'ai envie quand même de préciser que l'aventure ne va pas s'arrêter là. Parce que votre livre, qui est coup de cœur des libraires, intéresse maintenant les gens de cinéma.
Oui, ah oui, très, très vite, les producteurs se sont intéressés. Tout de suite à l'adaptation audiovisuelle. J'ai reçu là, je suis en discussion avec un des plus grands scénaristes qui s'appelle Jérôme Tonnerre.
Mais
qui,
oui.
Qui a fait notamment Les Femmes du sixième étage, qui a fait La gloire de mon père,
mais
qui
oui.
a fait tous les films de Claude Sautet, qui a fait Elle s'en va d'Emmanuel Bercourt, enfin qui a écrit. C'est inespéré. Et quand il a lu mon livre.
C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le manuscrit, c'est le livre qu'il a eu dans,
les mains
et il a eu un coup de foudre immédiat.
Oui. Et ça a été, pour moi, c'est extrêmement touchant. Je ne sais pas ce qu'on en fera, mais pour moi, c'est extrêmement touchant parce que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et aujourd'hui...
Vous dites que c'est lui qui a, en fait, signé tous les scénarios des films de Claude Sautet.
Oui. La plupart, Incroyable. Les plus à cœur en hiver, enfin, tous les plus beaux films. Et alors qu'il est, rempli de travail, hein. Je dois dire que son agenda est rempli.
On imagine.
Il s'est proposé, il m'a dit, voilà, en accord avec le producteur que tu auras, en accord avec le réalisateur qui fera ce film, moi, je serai partant pour en écrire le scénario, avec toi d'ailleurs, pour que tu m'aides à travailler sur ce scénario. Donc oui, j'en suis extrêmement touché, surpris, agréablement surpris, parce que je ne pensais pas que cette histoire, d'abord, serait un roman. Je ne pensais pas que ce roman marche, comme vous l'avez indiqué aujourd'hui. Et puis surtout, qu'il puisse
avoir une vie. Que ça devienne
un film. Bah, ouais.
Alors, est-ce que vous imaginez déjà l'enfant qui tiendra votre rôle?
Non, alors l'enfant, non, parce que je ne connais pas encore les noms. Enfin, je
mais rien ne vous interdit de songer comme ça
Alors, oui, celui qui pourrait être moi aujourd'hui en adulte, je pensais à Gad Elmaleh, je connais un petit peu.
Ouais.
Je me dis que oui, lui aussi
sûr.
Vient du Maroc, lui aussi a une histoire particulière avec ses parents, une forte relation, notamment avec sa maman aussi et son papa. Je me dis, que, comme je le connais un peu, je me dis peut-être qu'il serait formidable dans le rôle de Roland aujourd'hui. Après, à l'enfant, il faudra faire un casting, j'imagine. Mais voilà, il y aura deux époques. Il y aura le petit et l'adulte. Et puis Sylvie Vartan accepterait de jouer son rôle aujourd'hui, puisqu'elle a une part prépondérante dans la rencontre que j'ai faite bien après dans ma vie et le fait que je sois devenu son avocat sans qu'elle ne sache une bribe de cette histoire.
Voilà. Alors, Roland Pérez, au milieu de ce feu d'artifice, entre votre cabinet d'avocat, les émissions que vous faites sur C8 avec William Lémergie et puis la nouvelle émission sur Europe 1 tous les samedis après-midi, baptisée « C'est arrivé près de chez vous », vous allez, et attention, le film dont le scénario va être travaillé par le grand Jérôme Tonnerre et vous avez trouvé le temps pour l'écriture d'un deuxième roman?
Non, j'ai pas du tout pensé. Je vous avoue que là, c'est. Mais non, j'ai pas du tout pensé encore. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, j'ai beaucoup, beaucoup de choses sur le feu. Et puis, j'ai aussi une autre vie. Madame Doubtfire a une autre vie, celle de s'occuper de ses enfants. J'ai
trois enfants.
J'ai deux petits-enfants. Je viens de marier ma fille. J'espère marier mon fils bientôt. La première est déjà mariée. Donc voilà. La plus jeune est devenue avocate.
Comme son papa.
Ouais, comme sa maman. C'est vrai que c'est quelque
et
chose.
Comme sa maman.
Ouais. Et donc, c'était important. Ce livre aussi retrace un peu la vie avec sa maman, le fait que j'ai perdu jeune ma femme. Et je voulais aussi lui rendre hommage parce qu'on a grandi. Ma structure, je me suis dit que ma structure d'enfant, vivant avec beaucoup de femmes, avec ma mère, les voisines, avec mes sœurs, m'ont donné une part de grande féminité qui m'a permis d'aborder le rôle aussi de mère que j'aurais pu ne pas aborder quand j'ai perdu ma femme et qui fait que mes enfants me souhaitent aussi la fête des mères, figurez-vous, en même temps que la fête des pères. Et
Vous les avez élevés seuls, ces trois enfants, ouais. qui chacun ont trouvé leur voie. Vous les avez élevés seuls, puisque la maman... C'est terrible, a été emporté par une maladie. Effectivement, je comprends qu'il vous souhaite à la fois la fête des pères et la fête des mères.
Oui, Voilà, c'est quelque chose qui est émouvant aussi, mais qui fait que j'ai une autre vie aussi, cette vie. Et je suis content aussi que ce livre leur donne une... C'est ce que j'ai dit à ma fille. Ma fille s'est mariée il y a quelques jours, juste avant d'entrer sous la roupa, vers l'hôtel pour être bénie. Je l'ai prise dans les bras et je lui ai dit, j'espère que ta grand-mère, le courage, l'abnégation, la volonté de ta grand-mère et de ta mère aussi, parce que ce sont des femmes fortes, vont t'habiter toi aussi, vont t'inspirer toi aussi. Et dans la vie, il ne faut jamais renoncer, il ne faut jamais baisser les bras. Le lendemain est toujours un autre jour et le meilleur aussi reste à venir. Il n'y a pas que le malheur qui arrive aux gens, il y a aussi le bonheur et j'en suis la preuve vivante.
Roland Pérez, avec quel mot remettons le manuscrit de sa vie à chacun de ses enfants ?
C'est marrant que vous me posiez cette question parce que je l'aurais pas fait lire du tout ce manuscrit avant.
Non.
Non, je l'aurais pas fait lire. Je voulais pas qu'il.
En fait, ils ont eu le livre édité dans les mains. Ouais. Vous n'avez pas osé. Mais alors, dites-nous, qui est la première personne qui a lu le manuscrit, la toute première ?
Je me demande si c'est pas vous, Isabelle. Je voulais envoyer Isabelle parce que vous me connaissez depuis longtemps et qu'on a une relation forte
d'amitié.
D'amitié, oui. Et je crois que je voulais envoyer avant l'été. Je voulais envoyer à vous parce que je connaissais votre sensibilité, je connaissais votre regard et je savais que ce que vous me direz m'apportera beaucoup et ce que vous m'avez dit m'a porté et m'a permis d'aller au bout après de cette aventure.
Roland Pérez, votre fils aîné, Harold, qui a toujours joué les célibataires endurcis, a rencontré enfin la femme de sa vie. Et la femme de sa vie, elle s'appelle Esther. Esther, le prénom de l'héroïne de ce livre, le prénom de votre mère. Elle doit s'amuser de tous ces miracles là-haut, Esther, hein, en prenant le thé avec Baba Salé. C'est moi qui vais pleurer maintenant.
Ouais. Écoutez, oui, ma mère lui disait toujours... Mon fils, mon petit-fils chéri, c'est moi qui te choisirai ta femme. Autant vous dire que mon fils souriait de ça. Et puis elle est partie en 2017 et il m'a dit finalement, tu vois papa, mamie elle n'a pas eu le temps. Je lui ai dit, tu sais mamie, elle a plus d'un tour dans son sac. Et quand quelques temps après, il va faire la rencontre d'une jeune femme qui ne va pas immédiatement s'intéresser à lui, il va un peu insister et puis il va lui demander à la fin... Mais donne-moi ton nom au moins pour qu'on puisse se suivre sur les réseaux sociaux, que je puisse te retrouver. Ma mère s'appelait effectivement Esther Wacknin. Et cette jeune fille va se retourner au dernier moment et elle va lui dire « Je m'appelle Estelle Wacknin ». Et là, mon fils va tomber de sa chaise, il va m'appeler et avec quasiment des sanglots, il va me dire « Papa, mamie, elle m'a effectivement trouvé ma femme ».
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui paraît aux éditions des Escales, est à lire de toute urgence pour retrouver le goût du bonheur. Je vous embrasse, cher Roland.
Moi aussi, merci beaucoup.